Chapitre 6. Confus ou convaincu. Ce qui a le plus d'importance. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé. Aveugle. Qu'est-ce qui a le plus d'importance? L'or ou le temple qui rend cet or sacré? L'intelligence authentique reconnaît une hiérarchie logique en toute chose. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ces affirmations parlent de valeur. Nous valons plus qu'un aliment, une fleur, un vêtement, un oiseau ou une brebis. Même chez les démons, si tous sont mauvais, il y en a de plus méchants que d'autres. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui. Matthieu 6, versets 25 et 26, 12, versets 12 et 45. Pour prendre un exemple dont la plupart d'entre nous se souviennent, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qui était le plus important? L'an 2000 ou le bog de l'an 2000? Ce point est si représentatif et répétitif qu'il mérite une analyse de fond. Exposer la pacotille et jeter le diamant. Imaginez qu'une entreprise, une dynastie ou une nation célèbre son 2000e anniversaire. Imaginez encore que cette entité compte plus de 2 milliards de sympathisants et de membres et soit établie dans chaque pays du globe, sans exception. Pensez qu'elle ait, malgré bien des défauts, implanté des écoles, des orphelinats et des hôpitaux par milliers, sauvé, nourri et éduqué des dizaines de générations, transformé des continents, inspiré des rois et produit des multitudes d'artistes, de chercheurs et d'inventeurs. Imaginez finalement que le calendrier principal de toute l'humanité se fonde sur sa création. Quelle fête ce devrait être! Pour comparaison, observons la publicité immodérée que nous offre le supermarché du coin pour son 10e anniversaire. 20 siècles de présence au milieu d'une humanité changeante où les royaumes comme les empires se font et se défont, où les peuples migrent et les traditions évoluent, tient du miracle. Un mouvement, commencé par une poignée d'hommes ouvriers, qui aujourd'hui influence notre planète entière de 1000 façons, aurait dû se marquer, non pas triomphalement, mais pour le moins solennellement. Comme le réformateur Vinet l'a exprimé, le christianisme est, dans le monde, l'immortelle semence de la liberté. Des générations entières ont rêvé de l'an 2000. Des multitudes de produits se sont présentés à l'avance avec le slogan « 2000 ». Mais que s'est-il passé à l'abord de cette date historique? D'abord, les médias, comprenant qu'un tel anniversaire comportait en lui-même un témoignage digne de réflexion, ont fouillé la planète entière pour y dénicher 40 calendriers différents. Ils ont ainsi légitimé le fait de passer sous silence Jésus-Christ, son message et son œuvre, soulignant que l'an 2000 n'était finalement qu'une date symbolique parmi d'autres. Ensuite, ils ont fait couler un torrent d'encre et de salive pour expliquer que le passage au 3e millénaire ne se produirait pas entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000, mais bien un an plus tard. Il fallait donc que toute personne intelligente garde le meilleur en réserve pour le réveillon 2000-2001. Évidemment, un an après, ces mêmes médias se sont bien gardés de marquer l'entrée dans le 3e millénaire de la foi chrétienne. Enfin, une partie non négligeable des disciples de Christ, au lieu de saisir cette illustre occasion pour proclamer la grandeur de leur Seigneur au travers des siècles et des cultures, se sont fait peur. Ils ont prêché le bog et, pour les plus zélés, la grande tribulation, la bête et la venue imminente de l'Antichrist. Ils ont photocopié leur livret de famille, vidé une partie de leur compte en banque, accumulé 100 litres d'eau en bouteille dans leur cave et acheter des bougies de secours. Début janvier 2000, ils ont replacé leur argent sur leur compte, jeté leurs photocopies, gardé les bougies inutiles pour Noël et ont mis 3 mois à boire leurs réserves d'eau. Mais il était trop tard pour organiser une opération régionale ou nationale à la gloire de celui que nous aurions dû honorer. Quel gâchis! Nous avons ainsi porté les fruits de la religiosité, du repli, de l'égoïsme et de la théologie en vogue. Tout va mal, tout va de plus en plus mal, mais de toute façon, nous ne sommes pas d'ici et nous repartons tout de suite. En cela, nous avons été bien pires que les pharisiens, qui considéraient l'or du temple plus sacré que le temple lui-même. L'un des messages non chrétiens sous-jacents au sujet du bog était le suivant. L'arrivée de l'an 2000 n'est pas une fête, c'est un immense problème international dont nous nous serions bien passés. Au lieu de discerner le piège et comprendre que l'éléphant allait enfanter une souris, nombre de prédicateurs se sont fait les porte-paroles du discours alarmiste. Je me pose les questions suivantes. À supposer que ce bug est effectivement à portée de gros problèmes, notre mission ne consiste-t-elle pas à enseigner à l'humanité tout ce que Jésus nous a prescrit? N'y a-t-il pas dans son enseignement 1000 aspects essentiels, puissants, réformateurs, pour nous éviter de nous engouffrer dans une telle voie de garage? De quel droit un serviteur de Dieu peut-il abandonner la proclamation de la parole pour inonder son entourage de messages et d'écrits sur le bog et autres sujets de même acabit? Certains de mes lecteurs pourraient penser qu'il est aisé pour moi d'écrire ces choses après coup. Cependant, mon opinion n'a pas changé. Voici ce que j'écrivais à propos de l'an 2000. Extrait de mon livre « Progresser avec Dieu », page 4, édition 1992. Nous ne devons en aucun cas devenir superstitieux face à cette date. Certes, c'est un anniversaire digne d'être fêté royalement. Mais l'an 2000 sera aussi une année comme les autres, où certains auront mal aux dents, d'autres se marieront, d'autres encore mourront. Une année tout simplement normale. Hâter ou retarder le retour du Seigneur. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. Jésus établit un lien réel entre le Créateur et la création. C'est pourquoi l'homme peut réellement porter atteinte aux voies de Dieu. Dans un best-seller des années 1970, publié à plus de 4 millions d'exemplaires, et qui contient par ailleurs des chapitres de grande valeur, nous retrouvons la même tendance d'interprétation erronée concernant les signes des temps de la fin. À partir d'un fait historique, la proclamation de l'État d'Israël en 1948, les auteurs affirment sans embâge que la parole de Christ, « Cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive », lui est directement liée. Résultat des courses, personne ne pouvait savoir quand le Christ reviendrait, mais cela devait arriver au plus tard en 1988, puisqu'il est généralement admis qu'une génération, au sens biblique, équivaut à 40 ans. 1948 plus 40 égale 1988. À partir de là, toutes sortes d'événements prophétiques devaient prendre place durant ces décennies. D'où cette phrase en couverture de livre. Vu d'ensemble des prophéties extraordinaires concernant notre génération. Leur conclusion est invariablement la même. Nous devrions vivre comme des gens qui ne pensent pas rester encore bien longtemps sur terre. Cette attitude prétendue spirituelle va à l'encontre de toute la pensée apostolique. Des dénominations entières ont perdu leur vision missionnaire suite à ce genre de message. D'autres ont continué à travailler, mais superficiellement, comme pour sauver les meubles, au lieu d'être des réformateurs de société. Être sel et lumière dans ce monde va bien au-delà du salut personnel de quelques individus. Pour ceux qui répètent à qui veut l'entendre que leur vient où personne ne peut travailler, la persécution nous paralyse, le temps de la mission est terminé. Répondons que, quand cette heure arrivera, nous le saurons, mais que cesser de travailler sous prétexte que c'est pour bientôt est aussi coupable qu'insensé. À noter que ces mêmes auteurs dénoncent les erreurs d'interprétations identiques durant les deux premières guerres mondiales. et l'on peut comprendre la tentation de s'y lancer face aux déclarations de guerre tous azimuts qui ont embrasé le monde et à la montée du nazisme. Ils reconnaissent que ces fausses alertes ont jeté le discrédit sur le sujet. Ceux qui jurent ainsi superficiellement par la parole portent aussi atteinte à son honneur. Il y a un abîme de différence entre prophétiser authentiquement les événements et utiliser les événements pour promouvoir ses idées. Alors que j'écris ces lignes, je constate avec tristesse que bien des chrétiens continuent à se délecter de ces présages dépourvus du sceau de l'esprit. Il y en a sans cesse de nouveaux. Ils font penser aux sectes qui maintiennent leurs membres en haleine par leurs pronostics et font preuve de mauvaise foi lorsque les événements les contredisent. Rares sont ceux qui demandent pardon. Avec une presse internationale qui souligne les mauvaises nouvelles et des chrétiens qui en font leur banque de données pour étayer leurs analyses prophétiques, nous risquons l'enlisement. Je n'espère pas les corriger par ces lignes, mais seulement donner aux hommes et aux femmes de bonne volonté le courage de ne pas les suivre. Pour briller dans le monde, l'espérance, la fidélité, la constance sont indispensables. Mais le dopage artificiel produit par des combats secondaires, l'orgueil de vue trop flatteuse à notre égard et le confinement dans une sorte de ghetto religieux sont autant d'éteignoirs à notre influence. La communauté qui en est affectée en subit les conséquences. Quelles sont-elles? Elle n'a pas de stratégie apostolique, car elle ne se prépare essentiellement qu'à aller au ciel. Elle est prête, par conséquent, à être perdante, à abandonner le terrain durement acquis par ses pairs, à reculer au lieu d'avancer. Elle alimente une mentalité du provisoire. Elle pense petit. Elle gémit au lieu de prier. Elle se défend au lieu d'attaquer. Elle ennuie au lieu de passionner. Elle meurt au lieu de vivre. La foi véritable dans le retour du Seigneur nous motive à être de meilleurs ambassadeurs, non à nous transformer en fuyards égoïstes ou en devins évangéliques. Comment donc ne pas se tromper, sachant que le calendrier de l'histoire avance? Premièrement, s'il est écrit au sujet du jour du Seigneur, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur », il est aussi écrit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Acte 1, verset 7 à 8. Notre priorité pour hâter le retour du Seigneur est donc d'annoncer la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier, afin que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Alors viendra la fin, conformément à Matthieu 24, verset 14. Travailler superficiellement, comme des personnes qui ne pensent pas rester encore bien longtemps sur terre, retarde le retour du Seigneur. Dans de multiples paraboles, Jésus nous fait comprendre qu'à son retour, ses serviteurs fidèles seront trouvés à œuvrer en son nom, non à spéculer sans fin sur l'avenir. Deuxièmement, les versets explicites de l'Écriture doivent éclairer pour nous les passages plus difficiles d'interprétation, et les paroles de Christ doivent éclairer celles des prophètes et des apôtres, non l'inverse. Troisièmement, le fait que d'éminents hommes de Dieu, d'une consécration incontestable, aient étudié durant toute leur vie l'eschatologie, et suivent pourtant différents courants de pensée concernant le calendrier des événements futurs, devraient nous conduire à étudier et à aborder ce sujet avec humilité. Une prise de position est légitime, mais elle devrait s'imprégner de sagesse, nous gardant de claironner des conclusions légères. Philippe Jauret, dans son livre « Branché sur la vie », résume bien le sujet en nous posant la question. Sommes-nous des chiens de garde qui aboient à tout vent, ou des sentinelles qui savent se taire et sonner l'alarme à propos? Il en conclut, « Je suis désolé de le dire, mais j'ai entendu pas mal de chiens de garde depuis 22 ans que je suis chrétien. » Je reviens en ce moment du Nigeria, où j'ai eu le privilège de visiter une dénomination en pleine expansion. Il y a un peu plus de 20 ans, cette dernière était composée de 40 communautés locales confinées au pays. Elle compte aujourd'hui 2 millions de membres, dispersés sur les 5 continents, soit probablement un facteur de multiplication de plus de 200. Pour cela, des missionnaires nigérians ont été envoyés dans une cinquantaine de pays, dont l'Angleterre et la Suisse. J'ai prêché lors d'un culte ordinaire dans une cathédrale qui n'était pas encore achevée. 2 800 personnes la remplissaient déjà, et plusieurs centaines étaient assises à l'extérieur devant les portes. Pourtant, la dénomination dont je vous parle n'est pas la plus grande, et des dizaines de lieux de rencontre, dont certains beaucoup plus grands, sont en construction partout dans la capitale. Là, comme dans beaucoup d'endroits où le peuple de Dieu est enseigné à aimer ses compatriotes, l'influence et les fruits du royaume sont perceptibles pour tous. Annonçons l'Évangile. Enseignons la parole. Quand une loi ou un événement manifestement antichrist surgit, combattons-le. Mais arrêtons de crier sans cesse au loup et de diaboliser les moulins à vent. Tout ce qui est nouveau ou que nous ne comprenons pas. Observons les signes des temps sur une période qui couvre plus que notre courte vie personnelle. Laissons à nos enfants l'espoir de carrières heureuses. Reconnaissons que ceux qui ont vécu les 2 guerres mondiales ont vu bien plus de drames humains et de bouleversements que la génération du baby-boom d'après-guerre. Recherchons réellement le bien des endroits que nous habitons. Soyons disciples de celui qui s'est donné par amour pour l'humanité. L'homme spirituel. À la fin de son temps sur terre, Jésus, l'homme qui a le plus influencé l'humanité, en fait le bilan dans une prière à son Père. Nous y découvrons ses suprêmes priorités. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 4, verset 6, verset 8. Versets 12, versets 18, versets 22 à 23.